toutes et à tous. C'est la rentrée de Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Lille Info, un magazine produit par Radio Campus en partenariat avec l'Université Lille 1. Un magazine que vous retrouvez tous les mercredis à partir de 16h dorénavant. Notez bien l'horaire, 16h, 16h30 sur Radio Campus 106.6 FM, www.campuslille.com. C'est la pleine rentrée des universités, notamment des universités de Lille. Et l'université de Lille, on verra après à quoi ça correspond, organise un événement annuel qui s'inscrit donc dans la durée. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est la conférence inaugurale qui sera présentée cette année. Donc au théâtre Sébastopol lundi, donc la semaine prochaine à partir de 16h30. Alors on va parler de cet événement avec Jean-Philippe Cassard qui est vice-président de l'Université Lille 1 et chargé du patrimoine scientifique, donc vice-président culture et patrimoine scientifique, et Laurent Brassard, son homologue, son équivalent donc à Lille 3, qui est vice-président vie culturelle et médiation scientifique. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Voilà, donc c'est la rentrée avec, on peut dire, un événement conjoint.
Tout à fait. Donc c'est pour ça que nous sommes aussi deux pour venir en parler, hein, puisque c'est une opération que nous avons lancée ensemble, Laurent et moi.
Alors Jean-Philippe Cassard, l'Université Lille 1, il y a quelques années, avait lancé sa conférence inaugurale. L'année dernière, c'était une conférence partagée en termes d'organisation et de responsabilité. Cette année, c'est encore plus, on va dire, mise en commun avec d'autres partenaires.
Tout
on peut peut-être tracer un peu cette évolution.
Il y a deux ans, donc, Nabil Ennagar, hein, mon prédécesseur, avait suggéré et proposé au président de Lille 1, hein, d'organiser une conférence inaugurale pour laquelle Edgar Morin avait été invité. Ça avait été un grand succès avec de nombreuses personnes qui étaient venues écouter Edgar Morin. Et donc l'idée de reconduire cet événement avait bien évidemment été envisagée et mise en œuvre donc l'année dernière. Et Lille 3 avait souhaité à l'époque s'associer, hein, à Lille 1 pour que l'événement soit commun, hein. Je pense que Laurent peut confirmer.
Tout à fait.
Et nous avions invité
Jacques Bouvresse, hein, donc, le philosophe qui avait cette capacité de pouvoir parler à la fois aux littéraires, aux artistes, aux spécialistes des sciences humaines de Lille 3, mais aussi aux spécialistes des sciences humaines de Lille 1 et aux scientifiques. Donc il y a toujours ce défi de trouver une personnalité capable de parler à la totalité de la communauté universitaire.
Et donc cette année, nous étions repartis tous les deux pour la même opération, en cherchant, bon, on en parlera tout à l'heure, hein, donc un intervenant. Et quand la nouvelle a été connu que nous avions l'intention de recommencer, eh ben, les établissements de l'Université de Lille se sont posé la question de savoir si on n'en ferait pas la conférence inaugurale de rentrée de l'Université de Lille.
Alors juste avant de parler du contenu, à quoi ça sert une conférence inaugurale ?
Alors, à quoi ça sert une conférence inaugurale ? Ça sert à rendre visible une entité qui n'est pas encore très connue, qui a beaucoup travaillé un peu dans l'ombre de commissions il y a 2 ans, de réunions des directeurs des différents établissements pendant toute l'année dernière. Et ce travail, à un moment, il fallait qu'il devienne visible. D'ailleurs, le groupe de travail que j'animais il y a 2 ans, qui était sur la gouvernance, c'est un vilain mot, mais donc l'organisation, comment on va travailler ensemble, avait aussi suggéré qu'il fallait qu'on ait des événements qui puissent, pour le grand public et pour les décideurs, rendre l'Université de Lille visible.
Alors justement, qui sera invité à cette conférence inaugurale, Laurent Brassard ?
Donc on a fait le choix d'inviter Daniel Cohn-Bendit. Alors quel Daniel Cohn-Bendit ? Tout le monde le connaît, évidemment. Sa notoriété a évidemment pesé dans son choix, parce qu'on veut toucher la totalité de la communauté universitaire et le grand public. Parce que derrière cette idée, je reviens sur votre précédente question, mais derrière cette idée, pourquoi ? Une rentrée universitaire. Il y a aussi une autre dimension qui est une dimension plus intégrative, faire un événement fédérateur de l'ensemble des personnels, mais aussi de les étudiants, de la totalité de nos établissements. C'est donc un moment, le premier événement finalement, qui se joue à une échelle d'abord totale, globale au sein de nos établissements et aussi globale à l'échelle de tous les établissements de l'Université de Lille. Alors pourquoi donc Daniel Cohn-Bendit ? Il y a plusieurs Daniel Cohn-Bendit. On a chacun notre mémoire et notre présentation de Daniel Cohn-Bendit. Pour certains, c'est le leader de mai 68 qui, ceci dit, accède à la notoriété grâce et par l'université. Mais nous, c'est pas ce Daniel Cohn-Bendit que nous avons choisi d'inviter. C'est le Daniel Cohn-Bendit, député européen depuis 1994. Et donc une véritable longévité au Parlement européen. Et une permanence, donc sans discontinuité, depuis quasiment 20 ans maintenant. D'autre part, Daniel Cohn-Bendit n'a pas d'enjeu électoral puisqu'il se retire de la vie politique. Donc ça, c'était une dimension qui nous a particulièrement séduit. Mais c'est surtout l'homme européen, l'homme qui connaît les débats qui ont lieu au Parlement européen, l'homme qui est proche des idées, enfin qui connaît les débats aussi au sein de la Commission concernant l'éducation, concernant l'université telle qu'elle peut se décider, telle qu'elle peut se dessiner au sein de l'Union européenne pour les prochaines années. Donc c'est cette dimension qui nous a particulièrement intéressés.
Alors sans entrer dans le débat, est-ce que justement cette organisation inter-université de la région lilloise, elle n'est pas dans la dynamique un petit peu des projets européens en termes d'université ? C'est déjà une réponse un peu à...
Mais je dirais que la volonté de faire une université de Lille, c'est d'abord d'être un poids lourd à l'échelle européenne. Évidemment, aujourd'hui, je crois que le paysage universitaire ne peut plus seulement se penser qu'en termes régional, national. Il faut articuler ces différents niveaux avec le niveau européen et le niveau mondial. On a désormais chaque année ce qu'on appelle les rankings, les classements des universités qui nous rappellent cette nécessité de s'organiser et de peser.
Alors cette façon de s'organiser, elle correspond aussi à, on va dire, une mondialisation du marché de l'université, du marché des études universitaires.
Alors on peut le voir effectivement sous cet angle un petit peu concurrentiel, exister dans une concurrence internationale. Mais faire l'Université de Lille, c'est aussi revenir un peu à l'essentiel de ce que c'est qu'une université. La loi de 68 a éclaté les universités, les a séparées en disciplines, a oublié d'y intégrer les écoles d'ingénieurs, les écoles aussi de journalisme, etc. Et en ayant un projet qui est quand même très original au niveau français, d'une instance qui associe à la fois les écoles et les universités. Hein, donc, je vais peut-être donner la liste, parce qu'on parle beaucoup de l'Université de Lille, mais on n'a pas défini qui était partie.
Pour l'instant, on a parlé de Lille 1 et de Lille 3.
Voilà. Et ben donc Lille 1 et Lille 3, Lille 2, donc là, on a les trois universités lilloises. Et puis, un certain nombre d'établissements, soit d'ingénieurs, mais aussi avec l'école de journalisme et Sciences Po, on voit bien qu'on rentre dans le domaine du management et de la politique. On a l'école centrale de Lille, l'ENSET, à Roubaix, l'école de chimie de Lille, donc trois écoles d'ingénieurs, Télécom Lille 1, une quatrième école ingénieur, mais qui fait partie du réseau Télécom national, Télécom Lille, une école de journalisme, l'école de journalisme de Lille, et puis Sciences Po Lille. Avec tous ces partenaires, on couvre vraiment l'ensemble du champ universitaire au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des humanités aux sciences dures, en passant par le management, par les sciences politiques, etc.
Alors vous parliez de classement tout à l'heure. Effectivement, certaines universités en France mettent en avant leur positionnement dans certains classements. Enfin, je ne sais pas, il y en a sûrement plusieurs, des classements internationaux. Oui. Lille 1 vient d'en mentionner un il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui. Est-ce que le fait de revendiquer en tant qu'université propre un positionnement dans le classement, c'est quelque chose aussi à mettre en perspective avec les autres universités en tant que pôle, on va dire, un groupe qui a une cohérence?
Oui, enfin, je pense que le fait de se positionner dans les classements, c'est déjà aussi de regarder en interne les facteurs de progression qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les classements, en fin de compte, bon, Shanghai met en avant un certain nombre de critères, en particulier le nombre de prix Nobel, qui sont des critères assez discriminants, parce que en général, les universités qui ont des prix Nobel en attirent d'autres, et c'est difficile de rentrer dans ce club-là. Par contre, le classement QS qui est réalisé en Angleterre est beaucoup plus large dans ses critères et donne plus une réalité de la vie des universités, mais donc aussi des points forts et des points faibles. Donc apparaître dans les classements, il faut bien analyser, il n'y a pas que la place, il y a pourquoi on est à cette place-là et comment on peut évoluer.
Alors justement, ces classements tiennent compte de la taille critique peut-être des universités. Est-ce qu'un pôle lillois aurait plus de poids en termes d'effet, de dynamique, de résultats?
Alors, je pense que ça nous permet, après je laisserai un peu la parole à Laurent là-dessus, mais ça permet surtout de ne pas avoir de points négatifs parce qu'on est absent sur un champ. C'est-à-dire qu'en étant gros, c'est pas tellement la masse, c'est que si on est absent, par exemple, je vais prendre sur le plan des sciences politiques et que le classement regarde un petit peu comment on est placé sur ce champ-là, on va avoir un zéro. Et on sait que sur les moyennes, c'est dramatique. Alors donc, la diversité et le fait de couvrir l'ensemble du champ nous donnera une visibilité, c'est sûr, bien meilleure, mais surtout nous permet de répondre complètement, en général, aux demandes des classements.
Laurent Brassin ?
Oui, ça permet aussi d'exister dans le champ de la recherche, parce qu'aujourd'hui, la recherche se fait essentiellement sur projet. Donc, l'Europe lance de grands projets, et des projets qui souvent appellent les établissements à se fédérer pour justement présenter quelque chose de très cohérent dans les formations, dans les axes de recherche. Et tout notre intérêt à Lille, c'est de réussir à se fédérer pour ensuite remporter un certain nombre de ces projets. Parce que ces projets, c'est évidemment de l'argent. C'est essentiellement d'ailleurs de l'argent et énormément d'argent qui doit nous permettre ensuite d'impulser des nouveaux axes de recherche ou d'intensifier des axes de recherche qui sont déjà excellents. Et donc derrière cette impulsion de la recherche, il y a évidemment... Il y a des répercussions sur l'excellence des formations. Thank you.
Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Nos invités, Jean-Philippe Cassard, donc vice-président culture et patrimoine scientifique de l'Université Lille 1, et Laurent Brassard, vice-président vie culturelle et donc médiation scientifique de l'Université Lille 3. Alors on va parler maintenant un peu en détail de cette conférence inaugurale. D'abord dire qu'elle se situe au centre de Lille, c'est quelque chose de symbolique.
Ah oui, tout à fait, oui. Enfin, il y a deux choses symboliques. C'est d'abord que la conférence a lieu le 30 septembre. On tenait absolument que la date soit avant le 1er octobre pour casser l'idée que les universités et les établissements universitaires rentraient le 1er octobre. Tous nos établissements, je pense, ont terminé leur rentrée depuis au moins 15 jours. Hein. Les universités, maintenant, la rentrée, c'est en septembre, comme tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, un lieu symbolique au centre de Lille, hein, un lieu de la mairie de Lille. Donc ça, c'est aussi important. Enfin, c'est le fait que cette université, elle est inscrite hein, dans le territoire. Hein, et donc, elle s'inscrit effectivement. Et c'est un lieu non universitaire, donc un lieu ouvert, hein, puisque la conférence est ouverte à tous.
Donc, ouverte à tous. Néanmoins, il y a une jauge qui est celle du Sébasto, de Lille. Hein.
Tout à fait.
Donc, comment on s'inscrit? Il faut réserver, je suppose.
Alors, vous pouvez vous inscrire en vous connectant sur le site. Donc, je me permets peut-être de vous l'épeler. Le site, c'est Conférence Rentrée, avec deux E à rentrée. Conférence Rentrée 2013. En un seul mot, conférence-rentrée2013.univ-lille.fr.
Alors, pour info, j'ai testé sur un moteur de recherche conférence inaugurale université.
Ça
Lille,
doit marcher aussi. Ça doit marcher
très vite aussi.
Voilà.
Donc voilà pour les infos. Donc dire aussi que peut attendre le public de cette conférence. Est-ce qu'il a des possibilités d'y intervenir, de poser des questions? Est-ce qu'il y aura aussi, on peut avoir par la suite, des journées de suite à cette conférence?
Alors évidemment, il n'était pas concevable, en tout cas pour nous, d'inviter un conférencier nous faire une belle leçon, qu'on l'applaudisse et qu'on s'en aille. C'est aussi pour ça que Daniel Cohn-Bendit a été pressenti et a finalement accepté. Donc l'idée, c'est que Daniel Cohn-Bendit intervienne sur ce que pourrait être l'université européenne de demain, une intervention qui devrait durer 40 minutes, et donc laisser autant de temps à la salle pour réagir et pour poser des questions à l'intervenant. D'autre part, nous avons fait le choix d'inviter Marilyn Baumar, qui est la journaliste spécialiste de l'enseignement supérieur au journal Le Monde, pour être aussi la médiatrice de cet échange, car c'est d'abord sous la forme d'un échange que nous concevons cette conférence inaugurale. Donc Marilyn Baumar animera aussi cet échange entre la salle et Daniel Cohn-Bendit, après son exposé, bien évidemment.
Donc cette conférence, peut-être tous les auditeurs ne pourront pas y être présent. Est-ce que par la suite, il y aura moyen de la visionner quelque part?
Oui, je laisse mon collègue Jean-Philippe.
Alors, comme beaucoup d'événements dans lesquels Lila est impliquée, donc la conférence sera filmée et rediffusée en direct, enfin, rediffusée, pardon, sur le site de Lila TV. Hein, et on regarde aussi pour qu'elle puisse être hébergée aussi sur d'autres sites, hein, de telle manière à ce que, effectivement, la dimension pluriétablissement et régionale de l'événement puisse être aussi présent à travers cette rediffusion.
Il y aura également des écrits qui en seront tirés, des documents
Alors, il n'est pas prévu d'en faire une recension écrite. Hein, par contre, il est clair que cet événement, c'est bien un événement inaugural de l'Université de Lille. De Lille, pardon. On va avoir du mal les uns et les autres à oublier nos petits chiffres derrière le mot voilà. Lille. Je pense que c'est important quand même que progressivement, ça soit la capitale régionale qui soit un peu le symbole de l'université. Voilà, et donc oui, dans la foulée, il y aura une conférence de presse des directeurs des établissements donc au courant du mois d'octobre. Et ensuite, je pense que l'Université de Lille va aussi proposer un certain nombre de rendez-vous, mais sur des sujets beaucoup plus thématiques et sur la base des résultats des groupes de travail qui ont œuvré cette année sur les thèmes de la recherche, sur les thèmes des formations, sur les thèmes de la formation continue, de telle manière à présenter le résultat de ces travaux au grand public et aux décideurs.
Cette conférence inaugurale des universités de Lille aura lieu, de l'Université de Lille aura lieu donc lundi à 16h30 au Théâtre Sébastopol. Vous l'aviez dit tout à l'heure, les universités n'ont pas attendu le 30 septembre pour reprendre les activités. Les étudiants sont maintenant déjà bien engagés dans leur année. Si on prend Lille 1 et Lille 3, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que les étudiants sont intéressés par ce genre d'événement? Est-ce qu'ils y sont associés? De quelle manière?
Les étudiants sont invités à y participer et plus encore invités à poser des questions, leurs questions, celles qui portent leurs préoccupations sur leur devenir d'étudiant dans une Europe universitaire qui se forme, qui existe déjà, qui se renforce, ne serait-ce que par l'importance des étudiants Erasmus que nous recevons dans nos universités. Donc les étudiants sont invités à y participer et surtout à prendre la parole.
Oui, alors c'est vrai que, enfin, Laurent le signalait, pour beaucoup d'étudiants, l'Europe universitaire, c'est Erasmus, un dispositif qui connaît et qui a connu un grand succès. C'est vrai que les étudiants peuvent se poser des questions puisque l'Europe est en train d'essayer de repenser le dispositif parce que c'est encore un dispositif qui touche trop peu d'étudiants et par rapport aux exigences de mobilité. Donc on voit bien que la question européenne et la question internationale globalement, elle est au cœur des questions de l'université et de plus en plus les étudiants de nos universités sont obligés de réfléchir aussi leur parcours de formation en fonction d'une certaine mobilité dans des pays de l'Europe, principalement, mais aussi international, puisque on a des étudiants qui vont à peu près partout dans le monde.
Alors justement, entre l'Europe qui est un pôle d'intérêt, on va dire, et le reste du monde, dont vous accueillez quand même pas mal d'étudiants dans vos universités, il n'y a pas de ligne de fracture, il y a des positionnements, comment ça fonctionne ?
Je pense que c'est une forme de continuité. C'est-à-dire que la démarche de mobilité internationale, en général, on peut la faire en proximité dans des pays de l'Europe, c'est plus facile. Et puis en général, c'est à marche-pied pour une mobilité internationale. Il n'y a pas de hiérarchie. Toute mobilité internationale, c'est l'ouverture à une culture, et c'est donc une démarche universitaire fondamentale, puisque je rappelle que l'université, c'est aussi l'ouverture intellectuelle, c'est pas simplement un diplôme à la fin.
Petite question, il en sera certainement question dans la conférence, qu'est-ce qui rapproche les peuples d'Européens par rapport aux universités? Qu'est-ce qui leur donne envie de voir ce qui se passe dans les universités des autres pays de l'Europe, par exemple? Est-ce qu'ils se sentent motivés? Déjà, actuellement, on a parlé d'Erasmus. Peut-être que, d'ailleurs, certains étudiants d'autres pays que la France utilisent davantage ce système, non?
Oui, tout à fait. Les Français ne sont pas les étudiants les plus voyageurs, les plus enclins à partir. Donc, c'est d'où la nécessité de mettre l'accent sur la mobilité européenne dans la construction des parcours de formation. Je reviens à votre question, qu'est-ce qui intéresse les peuples d'Europe dans leur université? Bien, déjà, je pense qu'aujourd'hui, l'université est beaucoup plus présente dans le quotidien de ces peuples, tout simplement parce qu'on a une population européenne de mieux en mieux formée et qui a de plus en plus fréquenter un établissement de l'enseignement supérieur dans son cursus. Donc le sentiment d'étrangeté de l'université par rapport aux populations, c'est quelque chose qui aujourd'hui appartient de plus en plus au passé. En tout cas pour des populations de plus en plus importantes de l'Europe, et je m'en félicite. Alors, qu'est-ce qui rend en même temps la circulation du savoir, la circulation des étudiants en Europe est aussi facilitée par l'harmonisation des parcours. Je vous rappelle, encore une fois, le point important de l'Europe dans l'université française. L'université française s'est réformée, a adopté les parcours licence, master, doctorat, suite un projet d'harmonisation européenne des formations. Donc il devient beaucoup plus facile, à la fois pour les étudiants comme pour les enseignants, de circuler. Alors qu'est-ce qu'on va chercher ? Eh bien, on va chercher, ça c'est l'image la plus couramment reçue, et c'est une des plus importantes, on va rechercher un enrichissement humain. On va rechercher une autre culture, d'autres manières d'être, de penser. C'est extrêmement important, puisque les études sont aussi un moyen d'émancipation. On va chercher aussi des formations d'excellence. Souvent, on choisit une université où enseigne un chercheur réputé sur le champ, la spécialité que l'on a envie d'investir plus tard dans ses études. Donc voilà comment peuvent fonctionner les échanges européens.
Voilà, peut-être aussi un jour on aura l'occasion d'aborder la question des langues, sachant qu'on m'a dit que parler plusieurs langues, ça rendait plus intelligent. Donc on va s'y mettre tous. Merci en tout cas à vos universités de nous apporter ces savoirs et ces perspectives d'avenir. Donc à très bientôt, lundi, 16h30, au Sébasto. Jean-Philippe Cassard, Laurent Brassard, à bientôt.
Merci.
À bientôt, merci, et tous au Sébastopol, lundi à 16h30. Mm-hmm.